12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
D'un côté, un grand romancier islandais nous emmène entre rêve et réalité. Jón Kalman Stefánsson livre un roman autobiographique, fantaisiste et musical. De l'autre, le prix Nobel de littérature 2018, l'autrice polonaise Olga Tokarczuk reprend le schéma de la montagne magique de Thomas Mann. Un jeune homme malade, un sanatorium en altitude, le tout juste avant la Première Guerre mondiale. Peut-être plus noir, à coup sûr plus fantastique.
Et on en parle avec vous, Céline Duchesnay, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes productrice à France Culture et chroniqueuse dans l'émission Mauvais Genre, c'est le dimanche à 15h. Et bonjour à vous Philippe Chevillé.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes chef du service culture des Échos. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Nous commençons ce débat critique avec « Mon sous-marin jaune » de Jón Kalman Stefánsson, traduit de l'islandais par Eric Bourri et disponible aux éditions Christian Bourgeois.
Les pages qui suivent nous emmèneront dans bien des directions et nous conduiront à faire plusieurs haltes à des époques et en des lieux différents. En Mésopotamie, il y a 5000 ans, au Moyen-Orient, en l'an 33, rue Safamiri, à Reykjavik, et dans bien d'autres endroits que je ne prends pas le temps de nommer pour l'instant. Toutes ces routes aboutissent d'une manière ou d'une autre ici, dans ce charme en parc londonien, où je croise les jambes par une belle journée d'août 2022, assis pas très loin de Paul McCartney, l'ancien Beatles âgé de 80 ans. Cherchant à se protéger du soleil, de la chaleur et de la célébrité, il s'est abrité sous l'épais feuillage d'un chêne plus ancien et sans doute en bien meilleure santé que l'Empire britannique.
Ces premières lignes du roman de Jón Kalman Stefánsson sonnent comme un avertissement. Oui, oui, le point de départ du récit est bien une belle journée d'été dans un parc londonien où le narrateur, un romancier reconnu, double de l'écrivain islandais, aperçoit l'ancien Beatles abrité sous un arbre. Il faut que j'aie une conversation importante avec lui, estime-t-il. Comme les sujets qu'il souhaite aborder sont multiples et complexes, il se ravise et se lance donc dans une longue préparation à cette discussion. Préparation qui nous conduit dans des lieux, des temporalités multiples, avec des liens complexes. C'est d'abord un retour à l'enfance, quand il apprend la mort de sa mère, en une phrase, dans la bouche de son père, lors d'un trajet dans une Trabant rouge et blanche. C'est aussi son rapport à la Bible, et la lecture précoce et critique qu'il en fait. Sa vie dans la famille de sa nouvelle belle-mère, qui ne va pas l'aider, son père qui reste silencieux, lui, triste, seul. Seul aussi, la beauté des fjords de l'Ouest qui l'apaise, tout comme cette bibliothèque de la ville où l'auteur a grandi, Keflavik, ainsi que eh bien, les chansons des Beatles. Le narrateur croisera aussi pêle-mêle un chauffeur de taxi, un moniteur d'auto-école, Ringo Starr et bien d'autres. Comme le dit le titre du premier chapitre, un conseil, attachez votre ceinture. Céline Duchesnay, avez-vous suivi ce conseil et qu'avez-vous pensé de ce roman ?
Oui, il dit même exactement attachez vos ceintures parce qu'ici, tout peut arriver et surtout ce qui échappe à notre entendement. Alors en effet, si on est à la recherche d'un roman avec une narration linéaire, je pense qu'il ne vaut mieux pas trop insister parce qu'on n'est pas là de la naissance d'une personne jusqu'à sa mort. C'est un roman qui au départ peut être assez désarçonnant parce que il part en effet dans tous les sens. Vous l'avez cité, Nicolas, on parle de Mésopotamie, on parle d'Islande, de souvenirs d'enfance, la genèse de la Bible apparaît dans deux versions. On ne sait pas trop à quelle époque non plus tout se passe, parce que le principe, c'est peut-être même le principe de la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné de votre vie, vous êtes là, présent, en pleine conscience, je dirais, et en même temps, dans votre cerveau fait des liens avec le passé. C'est comme si on était fait d'une succession de couches, d'événements qui relèvent aussi bien de ce qu'on est en train de voir que de ce qu'on a vécu. Et alors, la spécialité, je dirais, de ce roman et de Stefánsson, c'est de faire finalement dialoguer toutes les périodes qu'on a au fond de soi-même, tous les souvenirs, et d'aller même encore plus loin, puisque ça c'est le pouvoir de la littérature et de l'imagination aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes par exemple dans ce parc, vous êtes face à Paul McCartney, vous avez besoin de réfléchir, vous pouvez même faire arrêt sur image, et tout à coup on voit Paul McCartney qui se lève, son pied qui commence à s'élever dans les airs pour franchir un premier pas, et là, paf ! On arrête tout et le narrateur, à ce moment-là, peut revenir dans le passé pour essayer de quoi ? Ça, c'est quelque chose qui met du temps à comprendre. qu'est-ce qu'il cherche? Évidemment, il y a cet événement fondateur qui est la mort de sa mère, donc on est en 69, l'incapacité de son père à mettre des mots sur cette mort terrible.
Oui, ils sont dans cette voiture, et le père lui lâche comme ça: je crains que ta mère ne soit morte.
Voilà, et après, fin de l'annonce. Silence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication entre le père et le petit garçon qui, de mémoire, a 8 ans à ce moment-là. 7-8 ans, oui. Et c'est quelque chose qui va totalement le détruire, et il va essayer de trouver des réponses, pas auprès de son père, puisque c'est pas possible, mais dans les livres, auprès de voisins. Et la grande question qui sous-tend tout ce livre, et que j'ai adoré, hein, c'est: qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? À quoi sert la mémoire? Quels sont le rôle des souvenirs? Et je trouve que ça nous permet à nous aussi d'avoir une sorte de réflexion sur nous-mêmes, sur notre vie passée, et de voir quels sont, par exemple, les événements marquants qui nous ont construits ou abîmés, d'ailleurs.
Philippe Chevillier, est-ce que vous avez vous aussi, eu besoin d'attacher votre ceinture pour débuter ce roman et vous laisser embarquer?
Oui, mais très vite, on l'oublie, la ceinture. Le problème, c'est que pour en parler, c'est comme quand on le lit, c'est-à-dire qu'on a envie de dire tout à la fois.
C'est ça.
Et je crois que, moi, le premier réflexe, c'est de me dire, ça a été de me dire, pour un roman autobiographique, on a vraiment la forme la plus débridée qui soit, la moins réaliste qui soit aussi, puisqu'il y a une partie quand même très onirique et très fantastique. Et puis, cette alchimie incroyable qui est en fait de pouvoir réunir les fans des Beatles et de Paul McCartney, qui n'est pas n'importe qui, je veux dire ça, parce que, évidemment, pas n'importe qui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut parler des Stones, on peut parler des papis du rock, mais McCartney, il est ailleurs, il est au-dessus de ça, il est hors du temps, parce qu'on trouve aussi bien dans les Arock, partout, dès qu'il sort un disque, parce qu'il sort encore de très belles chansons, ça reste un personnage en dehors du temps. Donc il y a ses fans qui peuvent lire ce livre, et puis il y a ceux qui sont fans de littérature nordique, de ses fjords. Et ce grand écart, il réussit à le faire en réunissant en plus plein d'éléments disparates. Donc moi, je suis aussi fasciné par ce personnage qui finalement a une enfance très solitaire et dont les amis sont pratiquement que des fantômes. C'est-à-dire qu'on retrouve à un moment donné le jeune garçon qui parle aux morts dans un cimetière. Et cette volonté de relier tout ça avec les Beatles qui... Il est un peu sauvé par les Beatles d'une certaine façon. Il y a une très belle scène parce qu'on pourrait penser que c'est juste un gimmick. D'abord, McCartney est présent tout le temps. Le va-et-vient, il est là tout le temps, excusez-moi, entre Hyde Park et l'Islande. Et puis, il y a ces chansons des Beatles qui lui collent à la peau et à l'âme. Et lorsque le petit garçon part avec sa belle-mère, avec qui il s'entend très moyennement, dans la campagne et vers les fjords très éloignés de la ville, il a tout d'un coup une vision des Beatles au fond du car. Les Beatles viennent de se séparer, donc il serait presque mort d'une certaine façon. Le groupe est mort, mais le groupe ressuscite pour lui en observant le dépeçage d'une baleine au pied d'une falaise et crée une chanson quasiment rien que pour lui. Et dans tous les fils qu'on peut tirer de ce livre, il y en a un qui est à mon avis très fort, puisque c'est celui de son histoire, c'est la fabrication d'un poète et la poésie qui peut être celle de la musique, qui peut être celle de la littérature, de l'art, qui sauve la vie. Et ça, je trouve que c'est très bien tenu, bien qu'on soit ballotté dans cet avion qui nous transporte effectivement, mais on en reparlera aussi un peu en Mésopotamie.
Parlons peut-être justement des Beatles. Tout porte à croire que ce roman va nous parler des Beatles en permanence. La couverture d'abord, on a la fameuse rue Abbey Road, effectivement. Le titre, Mon sous-marin jaune. La présence de Paul McCartney dès la première page. C'est pas ce qui vous a le plus, qui vous a tiré le plus vers ce livre-là, Céline Duchesne.
Non, c'est vrai que...
Vous n'êtes pas une fan des Beatles?
Pas plus que ça.
C'est pas grave.
Pas plus que ça. Mais c'est plus que je suis peut-être pas très fan de littérature qui parle de musique actuelle, on va dire. En tout cas, à l'idée, moi, de commencer à rencontrer Paul McCartney dans ce livre, j'étais pas dithyrambique de joie. Donc, j'ai même eu un petit off. Moyen.
Mais alors, Philippe parlait d'un gimmick. C'est quoi? C'est une Madeleine de Proust? Alors, c'est quelque chose qui le ramène justement dans son enfance?
C'est, Oui, c'est que le lien, en fait, tout est lié dans ce livre. C'est vrai que c'est très difficile d'en parler, parce que est-ce qu'on va parler de la Mésopotamie, est-ce qu'on va parler des montagnes noires du nord de l'Islande, est-ce qu'on va parler de Reykjavik, est-ce qu'on va parler de la Bible. Mais le lien, c'est que juste avant de mourir, la mère du narrateur écoutait cette chanson. Donc le lien, c'est de toute façon la mère, parce que c'est aussi un des grands fils. Évidemment, à travers ce livre, on voit la construction du poète, comment est-ce que la littérature je ne sais pas si ça l'a sauvé, mais en tout cas ça l'a aidé. En tout cas, il a eu envie de trouver des réponses dans tous les livres, les textes. Il y a même un moment où il est quasiment enfermé dans une bibliothèque, où il passe son temps à lire et à écrire. Ça, c'est quand il est un jeune adulte. Mais le lien aussi, c'est le deuil, c'est les blessures qui ne se referment jamais. D'ailleurs, le terme est utilisé à un moment donné dans le livre. Et cette chanson du sous-marin jaune, du Yellow Submarine, c'est cette idée que il faut trouver un endroit à soi où on puisse être,
où les mauvais coups du monde ne nous atteignent pas. Voilà, dit la mère. Juste avant de mourir.
Et finalement, cette bibliothèque, à un moment donné, dans laquelle il s'enferme, c'est même pas la bibliothèque, c'est le sous-sol de la bibliothèque. Il y reste même au-delà des heures d'ouverture de la bibliothèque. Il l'appelle le sous-marin jaune aussi, parce que c'est un endroit où il est protégé. Mais alors, les gens, il y a toujours ça qui est beau aussi dans ce livre, c'est que finalement, l'amitié, la compassion, viennent de personnages qui ne sont pas les personnages principaux, a priori. Donc, ce n'est pas le père, ce n'est pas la belle-mère. Quoique, la belle-mère apporte quand même quelque chose à cet enfant, même dans son silence. Mais ça peut être par exemple les voisins, où il y a un couple de vieux voisins qui sont absolument géniaux, qui accueillent ce petit gamin qui ne veut pas aller à l'école, qui fait l'école buissonnière. Et puis il y a aussi une dame qui, voyant que ce jeune adulte passe son temps dans ce sous-marin, enfin dans cette salle qui est sous la bibliothèque, vient le voir en lui disant c'est pas bien de rester tout seul. Et la réalité, c'est que finalement, qui va aider le narrateur? Ça peut être ces gens qui, a priori, n'étaient pas faits pour le rencontrer, et les fantômes, parce qu'ils convoquent les morts, et les morts dialoguent avec lui. Il y a toutes ces scènes qui sont si belles de ce tout petit enfant qui trouve refuge dans le cimetière, et avec tous ces morts qui lui parlent, qui lui donnent des conseils. C'est pas du tout sinistre, c'est pas du tout... au contraire, on a l'impression qu'il y a des êtres qui sont là, alors ce sont des êtres invisibles, mais qui prennent soin de ce petit garçon qui est si esselé.
Il y a quelque chose de très déstabilisant aussi au début, c'est toute cette fantaisie autour de la lecture de la Bible, notamment Philippe Chevillier. Il en a, lui, une lecture de jeunes enfants qui découvrent lors de séances de catéchisme, effectivement, et moi, il y a tout de même quelque chose qui m'a interrogé, parce que lui, il fait le parallèle en permanence entre Dieu et Jésus, c'est le rapport avec le Père, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement au-delà donc de ce deuil dont on a parlé, mais qui est l'une des facettes de sa construction.
Oui, il tue le père, on peut faire de la psy de comptoir, mais il tue le père deux fois, il le tue aussi à travers cette représentation de Dieu qui lui est présentée parfois dans sa lecture qui fait très jeune de la Bible, mais aussi par le religieux ou qui le conseille, etc. C'est dans cette vision d'un Dieu vengeur qui n'arrête pas de s'énerver contre ses oies, la colère totale, et il n'en veut pas comme il ne veut pas du père, et cette image qui fait, il accole son père avec son père buvant de l'alcool et écoutant pas toujours de la bonne musique. Quand il écoute du Johnny Cash, c'est pour chanter des chants de marins. Donc c'est un peu pour lui l'horreur, il le met. Et c'est vrai que la mystique de Stefanson n'est pas dans la religion, elle est dans l'humanité, dans l'humanité qui est portée beaucoup par les souvenirs. Parce qu'encore une fois, moi, quand je disais que c'est la fabrication d'un poète, parce que finalement, quand on voit le parcours de ce garçon, à part consulter des livres, lire des livres et faire des petits boulots et dialoguer avec les fantômes, c'est quelqu'un de très très solitaire et qui va justement se transcender par l'amour de la poésie. Et ses copains, c'est encore une fois les Beatles, c'est un groupe fantomatique quand ils commencent à s'y intéresser, puisqu'ils viennent de se séparer, et le plus beau des fantômes encore en vie, c'est McCartney qui va retrouver à Hyde Park. Et alors, le portrait de McCartney, pour ceux qui aiment les Beatles, dont je fais partie et qui sont des fans de McCartney, c'est assez amusant, parce parce qu'on le voit, qui téléphone de temps en temps, il pense que c'est un Ringo Starr, il pense que... Ce livre nous transporte, et je voulais juste dire aussi un petit mot sur la Mésopotamie, parce que ça peut intriguer le lecteur, mais là on en revient à cet ami fantomatique qui réapparaît avec un manuscrit qui viendrait de la Mésopotamie, en fait, qui aurait été dicté directement d'une comète, c'est-à-dire on tutoie vraiment les étoiles, les fjords, et jusqu'à cette vision d'ailleurs très belle du sous-marin jaune qui voit en fait apparaître dans la mer avec le soleil et qu'il imagine sortant des flots. C'est vraiment aussi un livre de poésie.
Pour conclure, pour ceux qui ont déjà lu du Stephenson, alors je pense entre Ciel et Terre, La tristesse des anges ou encore Le cœur de l'homme, est-ce qu'on comprend ce qu'il a pu écrire avant grâce à ce roman autobiographique, Céline Dufournet?
Ah, alors il faut pas me poser la question parce que moi c'était mon premier.
Et ben voilà.
C'était mon premier.
Mais ça vous donne envie de lire
d'autres? Ben du coup, oui, parce que j'en ai parlé autour de moi et j'en ai deux qui m'attendent justement à la maison et dès que je vais vous quitter, je vais me jeter sur Entre Ciel et Terre.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Mon sous-marin jaune de Jón Kalman Stefánsson s'est traduit de l'islandais par Éric Bourrier et c'est disponible aux éditions Christian Bourgois.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent de ce roman qui sort aujourd'hui. Il s'appelle Le banquet des empouses et il est signé de la romancière polonaise nobelisée Olga Tokarczuk.
La vue est obstruée par les volutes de vapeur échappées de la locomotive et qui serpentent à présent sur le quai. Il faut regarder à travers elle pour tout voir, se laisser aveugler par la brume grise, le temps que le regard se fasse acéré et omnivoyant du passé, du présent et du futur. Nous apercevons alors les dalles du quai, autant de carrés entre lesquels subsistent de petites plantes frêles. Un espace qui veut à tout prix préserver l'ordre et la symétrie.
La description de cette arrivée en train est minutieuse. Il faudra encore 3/4 d'heure de route à travers la forêt, notamment pour grimper jusqu'à la pension pour messieurs du village de Göbersdorf, dans les montagnes de Basse-Silésie. Nous sommes au sud de la Pologne. Et c'est là que le jeune Polonais, Wojnicz, a été envoyé par son père, autoritaire, pour soigner sa tuberculose. C'est avéré au début du XXe siècle, de longues expositions à l'air d'altitude permettent aux patients de guérir. On retrouve d'ailleurs déjà ce schéma chez Thomas Mann ou encore dans le journal de Kafka. Si ce lieu, cette auberge et ce sanatorium paraissent gemütlich, à notre héros, comprenez, agréable, douillet, tout va se compliquer à l'apparition de la première mort. Dans cette pension pour hommes, le machisme est la règle, la femme n'a pas sa place, n'est pas bien traitée ou ni même considérée. Sauf que dans le banquet des empouses, les esprits jouent un rôle crucial. Des démons qui servent de narratrices vengent les victimes et nous plongent dans un récit qui oscille en permanence entre réalité et fantastique, avec une frontière très ténue. Philippe Chevillé, avez-vous été ensorcelé ?
Complètement, complètement. Alors c'est un livre très réjouissant, conte noir, féministe, plein d'humour, de poésie, encore de la poésie, et surtout de fausses pistes. Parce qu'à la limite, on peut se dire que, vous voyez le mot un peu galvaudé de palimpseste, en l'occurrence, serait pas mal, parce qu'on a d'abord, on a plusieurs couches dans ce récit. D'abord, il y a cette histoire, on a vu dans l'extrait qui est donné, histoire un peu romantique et bucolique de ce jeune homme qui tuberculeux, qui arrive dans cette très jolie ville de Göbersdorf. Alors, Sokolowsko, je sais pas si je le prononce bien en polonais, et allemand à l'époque, dans les montagnes de Basse-Silésie. On est dans un roman un peu à la Thomas Mann. Il suffit de regarder d'ailleurs des images sur internet de ce petit village. C'est charmant. Donc on pense qu'on va être dans quelque chose de sensible. Peut-être qu'il y aura une histoire d'amour quelque part du héros avec une patiente ou un patient.
Et puis
pas.
Au bout la guérison.
Et voilà. Et puis en fait très vite évidemment puisqu'on sait, on comprend que des esprits quand même assez étranges se servent de narrateurs. narrateur et en l'occurrence de narratrice, on comprend qu'on va tomber dans un conte noir, un conte gothique. Et effectivement, il arrive, on nous donne un petit peu la solution finalement assez vite. Hein. Un des résidents qui raconte qu'il y a eu effectivement une époque au XVIIIe siècle, au gré des guerres de territoire, de religion, de pouvoir, un massacre généralisé, une chasse aux sorcières, un massacre des femmes, et que donc ces esprits qui sont en fait les spectres des quatre, qui sont vraiment pas commodes, sont là pour venger ces femmes. Et on se dit, bon, finalement, les sorcières, c'est fini. Qu'est-ce qui, à cette époque, peut justifier que ça continue? Et là, c'est la troisième partie du roman, c'est que on voit ces personnages qui sont un petit peu comme des, un petit peu comme dessinés comme ça au fusain, des patients un peu âgés, un peu machos dans leur résidence, dans leur pension, dans la pension des séjours d'à côté du sanatorium, et elle est faite se bavarder entre eux, et ils ne parlent que d'une chose, de la femme absente, de la femme Oni, avec des phrases absolument incroyables, et donc on assiste à cette caricature, on se dit c'est presque caricatural, et l'astuce c'est qu'en fin d'ouvrage, oui, Olga Tokarczuk nous révèle qu'en fait elle a pris dans les extraits d'écrivains ou de personnalités célèbres depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, Sartre, Burroughs, enfin jusqu'à récemment.
Et donc ça Racine, Sartre, Kerouac, Durkheim, enfin il y en a pour tout le monde. Voilà, pioché chez tout le monde. Hein.
Donc on navigue entre ce roman réaliste, romanesque, romantique, le conte gothique qui se dévoile petit à petit et qui surtout va exploser à la fin, et puis cette satire en fait du machisme qui est explicitée par ces messieurs, et voilà, donc on navigue entre ces trois niveaux, et il y en a un quatrième en plus qui se rajoute, parce que j'en ai oublié un, c'est, puisqu'on est dans un genre de roman qui brasse les genres, on a aussi une réflexion sur l'identité, puisqu'il y a deux personnages qui sont très ambigus, celui du héros, et puis celui aussi d'un jeune malade homosexuel qui s'affiche lui plus ou moins clairement, et donc tout ça nous fait un roman qui nous promène pas mal et on a la tête un petit peu dans tous les sens et c'est vraiment très réjouissant.
Céline Duchesne, est-ce que vous aussi, dès le début, vous avez repéré le conte féministe, en tout cas, que décrit Philippe Chevillier?
Oui, parce que contrairement à Stephenson, pour le coup, j'avais déjà lu j'avais lu Sur les ossements des morts, où la dimension féministe était aussi assez importante. Mais je trouve que ce serait un peu réducteur de dire que c'est un roman féministe. On peut le lire sans se sentir spécialement féministe, je dirais. Mais d'autant plus que là, le paradoxe avec ce livre, c'est que c'est un roman qui parle beaucoup des femmes, mais les femmes sont absolument absentes, oui, de tout le roman, puisqu'on est dans une pension pour messieurs. Alors, y a une femme qui apparaît au tout début du roman, mais comme elle se pend, ou alors je peux le dévoiler parce que c'est vraiment la troisième ou quatrième,
oui,
page, ou alors
ça,
on la tue. On ne sait pas trop, il y a une ambiguïté. Donc, la seule femme.
C'est la femme du patron de cette pension.
Voilà, bon, hein, on la voit apparaître, et puis le lendemain, voilà, elle est allongée sur une table, donc on ne peut pas dire que sa présence aura été très, très constante dans le livre. Les grandes absentes, en effet, de ce livre, qui sont les femmes, sont là tout le temps à travers la conversation de ces messieurs. Et la conversation est assez hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a même un moment où on peut se dire, oh là là, toutes ces phrases misogynes, est-ce que c'est pas un petit peu fatigant de relire à nouveau? Alors j'en ai noté quelques-unes. Hein. Donc ça ne parle que de l'infériorité de la femme. Déjà, c'est la femme. Le cerveau des femmes fonctionne d'une manière différente d'une autre. Là où il y a la volonté chez l'homme, prévaut le désir chez la femme. Les chiffres pour l'homme, la maternité pour la femme. Ce n'est pas un être fini. Sa matrice appartient à l'humanité. Les femmes sont par nature perfides, inconstantes. Donc c'était bien en effet qu'il y ait ce petit rappel à la fin de savoir que c'était pas non plus un roman à charge contre les hommes. Et puis après, pour avoir beaucoup travaillé sur cette période-là, donc de la Belle Époque, on pourrait l'appeler comme ça, en tout cas de notre point de vue français, c'est une réalité. C'est-à-dire que les propos de ces messieurs correspondent tout à fait à ce qu'un certain nombre de personnes pensaient. Moi, j'ai en tête aussi les écrits, notamment d'une historienne qui s'appelle Elisabeth Clare, qui avait travaillé sur la valse et sur l'utérus et sur le fait que on pensait que si les femmes valser trop, leur utérus, qui de toute façon était mobile à l'intérieur de leur corps, pouvait les rendre complètement folles. Donc il y a toute l'idée de l'hystérie qui est derrière. Mais ça, c'est une chose qui est intéressante dans le livre, mais qui par moments, moi, j'en avais un petit peu assez de devoir supporter ces conversations misogynes. Mais ce qui est complètement génial, c'est qu'on entre dans le livre au ras du sol. Parce que le livre commence, on est au niveau d'une chaussure. Et on est vraiment, on voit avec les yeux des empouses, donc de ces fameuses démones qui d'ailleurs ont donné lieu après à toute la littérature des femmes vampires, puisqu'elles sucent le sang des hommes. Donc on se rend compte qu'elles ne sont peut-être pas si menaçantes que ça, qu'il y a des êtres humains auxquels elles tiennent. Donc on a ce regard au niveau du sol, et puis après on a un regard qui est beaucoup plus général, et ce qui est quand même aussi fascinant, c'est cette manière dont la menace arrive. Parce que de voir les choses au niveau du sol, il y a quand même quelque chose d'un petit peu inquiétant d'être au niveau des chaussures. Et puis après, il y a ce trajet qui nous emmène dans la montagne. On a l'impression qu'on est dans une fin de vallée. Et puis après, dans cette pension pour messieurs, même tout le vocabulaire, on est captif, on parle de guerre. Et c'est aussi quand même, il faut le dire, un roman qui parle de ce personnage, ce fameux narrateur, qui va se révéler à lui-même et qui, grâce à toutes les épreuves, va réussir à accepter celui qu'il est réellement.
Sous-titre, roman d'épouvante naturopathique. Philippe Chevillier, vous voulez nous éclairer un tout petit peu sur, au final, qu'est-ce qu'on retient de ce roman-là ?
Alors, on a parlé de sa dimension un petit peu sur le fond, sur la forme, le mélange des cils, etc. Je crois qu'il y a aussi une troisième dimension qui est omniprésente, dont je voulais parler, c'est l'humour, parce que c'est vrai qu'il y a du second degré tout le temps, et notamment il y a deux sorties qui sont assez incroyables, où ces messieurs vont dans une auberge, et on leur sert le meilleur plat, la spécialité, à chaque fois c'est des plats absolument immondes, il y en a un qui est fait de cœur de lapin sanguignolant, et ça contribue à l'image un peu fantastique du roman, et un peu, mais à chaque fois, donc il y a cette note d'humour. C'est vrai que c'est à la fois une satire. Encore une fois, moi, je pense que il y a la dimension quand même du conte noir féministe qui est quand même là. Mais il y a aussi, c'est aussi un roman de nature, un roman de littérature qui s'amuse avec les genres. Donc c'est un plaisir de lecture avant toute chose que je conseille ardemment.
Et des magnifiques descriptions aussi.
Oui, absolument magnifique. Et puis c'est vraiment aussi un des grands thèmes de l'écrivaine, c'est la fluidité. C'est finalement les frontières qui bougent, comme la Silésie d'ailleurs, là où se passe le roman, les genre, l'humain, l'animal, la réalité, le surnaturel, le réel, l'imaginaire. C'est vraiment la grande marque de fabrique de cette grande autrice.
Olga Tokarczuk, donc, Le banquet des empouses, est traduit du polonais par Marila Laurent. Ça sort aujourd'hui aux éditions Noir sur Blanc et c'est un roman qui est en lice pour le prix Jean Monnet 2024 de la littérature européenne. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux, Céline Duchesnay. On vous écoute tous les dimanches quasiment dans Mauvais Genre à 15h sur France Culture. Philippe Chevillier, on vous lit dans Les Échos et cette table critique, ce débat critique est à réécouter sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.